nous aider à la personner ce vendredi saint 29 mars. Il faut grimper 384 marches et courir la manivelle. Rendez-vous à 2h30 au pied de la tour nord.
Pour descendre.
Et entre-temps, je signale que nous irons la graisser. Quelqu'un m'a proposé de venir m'aider à la graisser. De toute façon, ça sera un petit peu moins dur à tourner. Le samedi 7 mai, durant la messe de 11h, nous commémorons le centième anniversaire de la Scola. On a le plaisir d'avoir le président présent ici, François Bonin, et vénérer l'anneau de Jeanne d'Arc, un beau moment de convivialité. Le samedi 13 mai, ce fut la nuit de la cathédrale avec illumination de la façade et représentation de la pièce de théâtre La Passion selon Timérine. Je crois que tout le monde l'a apprécié, c'est une pièce de Pascal Jouvier et ils sont. Le samedi 21 mai, nous avions un concert avec le chœur écossais de Saint-Andrew. Le voyage culturel s'est déroulé cette année à Troyes avec un grand nombre de participants quand tous étaient enchantés. Au passage, nous avions visité Sens et Auxerre. Pour un voyage réussi, il faut plusieurs ingrédients. Un patrimoine intéressant à visiter, mais également de bons restaurants, un bon hôtel et des visites sans trop se presser. Et bien sûr, un groupe très sympathique, ce qui fut le cas. Pour les journées du patrimoine, le 16 septembre, nous avons visité la sacristie du chapitre et actionné la ciment, enfin celle au modèle 1,5 dans la chapelle Saint-Joseph. Nous avons eu une affluence record, sans doute liée à la météo et peut-être à l'effet post-Covid. J'oubliais avant de saluer la présence de Corinne Trussardi, maire adjointe chargée du patrimoine, et nous remercions de sa présence. Le concert de Noël a eu lieu le 17 décembre avec la Scola, la troupe de Simon Lacolle et le groupe de trompettistes de Dominique Gaillard. Ce fut également très réussi. En 2023, nous avons remis le bulletin reprenant la conférence de Patrick d'Orléans sur les pierres de la cathédrale. Ce bulletin était une mine de renseignements et c'est vrai que depuis, nous ne regardons plus les murs de la cathédrale comme avant. Nombre d'adhérents. 2021, 241. 2022, 273. 2023, 277. Alors, comme les adhérents de temps en temps oublient un petit peu de payer leur cotisation, une année, puis ils payent après, ils payent avant, etc. Donc, en gros, 300 sympathisants. Après ça, après le rapport moral, le rapport financier, et je vais laisser la parole à notre trésorier.
Si vous avez lu le bulletin en détail, normalement vous l'avez déjà lu. Mais on va le détailler ensemble. Donc le bilan 2023 est composé d'une partie de dépenses qui concerne le chauffage et l'eau, l'électricité pour 200 euros. Une subvention à une chercheuse, Madame Klopukov, pour 1000 euros. Des fournitures de bureaux pour 592 euros, la FISLENS. Des achats pour 508,98 €, des prestations de services qui est la plupart de ce qu'on pense pour 11 803,23 €. Alors j'ai mis une petite astérix parce que j'ai fait un petit détail sur cette pièce de théâtre dont Bernard a parlé, la pièce de théâtre Timérine, qui nous a coûté 6 133 € et seulement rapporté 501 €.
C'était gratuit.
Voilà. Il y a eu un panier qui a passé, mais on est très déficitaire sur cette pièce de théâtre. On paye 140 € de loyer à la paroisse, on paye 651,65 € d'assurance. On a eu des frais de voyage alors de l'année précédente de 4 529,60 €. C'est décalé d'un an parce que le voyagiste nous fait sa facture l'année civile suivante. C'est pour ça que vous avez une cotisation, des recettes beaucoup plus importantes. On n'a pas triché. Le site internet nous coûte 302,49 €, les frais bancaires pour 61,10 €, les frais de postaux pour 862 € et les cotisations aux autres associations, en l'occurrence la FASAC, nous coûtent 60 €. Les recettes sont composées des cotisations qui comportent 6 255 €, les collectes, c'est-à-dire les paniers pendant les concerts, les conférences, pour 1 261,50 €, et le voyage annuel qui est donc de 6 228 €, il sera entièrement reporté sur l'année suivante. uniquement pour ce qui est des dépenses. Nous avons 1800 euros de subvention de la ville de Bourges. Je remercie Mme Crustardi. 3 000 euros du département et un mécène nouveau qui est la société GD Emballage pour 5 000 euros. Nous avons vendu pour 2 740,40 € de livres et DVD et nous avons perçu 890,11 € d'intérêts financiers, ce qui fait un bénéfice de l'exercice à 9 463,58 €. Vous avez aussi sur le bilan 2023, le solde des comptes et l'inventaire du stock de livres qu'on a refait cette année, puisque à la demande de l'année dernière d'un des participants qui nous parle aujourd'hui, nous avons mis à jour ce stock avec le montant, non pas du coût, mais le montant de la vente si on le faisait au prix actuel des livres qu'on vend. Donc le montant est légèrement au-dessus de ce que, très au-dessus de ce que nous ont coûté tous ces ouvrages. Mais ce serait un équivalent de ce qu'on aurait dans la caisse si on avait vendu tous nos livres. Pour un total valorisé de 49 300 €. Donc ce qui fait qu'en trésorerie, en guillemets, et stock de livres, on n'est pas loin de 100 000 € d'argent fictif pour la moitié. C'est des livres, donc on ne peut pas les donner contre argent comptant à la banque. Mais on a 48 000 € de trésorerie disponible. Et puis le fonds de dotation n'a pas bougé en dehors des intérêts et des frais bancaires, donc vous avez les détails dessus. Alors on m'a posé tout à l'heure la question de un exemplaire de livre qui porte des initiales. Alors c'est la cathédrale de Bourges par les presses universitaires de France, qui s'appelle donc PUFR en résumé. On n'en a qu'un seul exemplaire, donc je l'ai mis dedans, mais c'est un peu anecdotique. On le prend pas. Est-ce que vous avez des questions sur ce budget ?
Ou sur le rapport moral ?
Sur le rapport moral.
Parfait. Pas de questions, tout est parfait. Alors je mets au vote le rapport moral prévoir. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? On va considérer qu'il est adopté à l'unanimité, merci de votre confiance. Même chose pour le rapport financier. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions et des acceptés d'unanimité. Merci à notre trésorier, merci à vous tous de votre confiance.
Pour ce qui est des reçus fiscaux, je le redis pour ceux qui n'auraient pas bien entendu, détruisez le premier reçu fiscal que vous avez reçu, puisqu'il y a une erreur dans le fichier Excel que j'ai utilisé, qui m'a fait un très joli tri des données. Donc celui qui est bon, c'est celui qu'on vous a donné aujourd'hui, et si ceux qui ne sont pas présents, on leur enverra par courrier.
Alors on va passer maintenant aux élections. Alors il y a donc 5 postes à pourvoir. Il y a 5 sortants qui sont en alphabétique: René Barbiot, Bernard Brossard, Guy de Seine, Gérard Garantel, Catherine Amard. René a des petits problèmes de santé, donc il ne sera pas là. Votre serviteur est là. Guy Dessène, je connais, il va présenter. Gérard Garandel a des problèmes familiaux, donc c'est pour ça qu'il est absent lui aussi. Et Catherine Avard est là, voilà. Donc, on va faire un tir groupé, je suppose. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se présenter ? On recrute toujours. Alors, je vais le mettre aux voix. Donc, qui est-ce qui est contre ces 5 personnes qui demandent le renouvellement de leur mandat ? Qui est-ce qui s'abstient ? Merci. Ben, merci encore de votre confiance. Merci à l'unanimité. Bravo. Un peu soviétique, hein, comme Alors, maintenant, les projets. D'abord, les événements qui ont lieu depuis le 1er janvier. Je ne sais pas comment qualifier la préparation de cette Assemblée Générale, et nous avons besoin de toute votre indulgence pour un nombre de problèmes assez impressionnants. Je l'explique. Tout d'abord, le numéro 2024 étant un numéro spécial, sa taille est nettement supérieure aux autres, Il a fallu du temps pour le faire imprimer. Nous voulions que vous l'ayez pour l'Assemblée Générale. Pour la mise sous pli, 15 personnes s'étaient proposées pour nous aider, ce qui est remarquable, et je veux leur dire ici toute ma reconnaissance, toute notre gratitude en votre nom à tous. Par souci d'économie, nous avons mis la convocation et les reçus fiscaux dans les enveloppes. Premier problème. Les étiquettes adresses, qu'exceptionnellement nous allions faire éditer par des petites copies, n'étaient pas dans l'ordre alphabétique.
Ah.
Ou plutôt, alors qu'on avait donné un fichier Excel, ou plutôt elles étaient dans l'ordre alphabétique, mais quand vous mettiez les feuilles côte à côte, sur 5 mètres, elles étaient dans l'ordre alphabétique. Donc comme on ne peut pas mettre au hasard les reçus fiscaux dans les enveloppes n'importe comment, bien que c'est ce qui a été fait parce qu'il y a eu un problème de fichier Excel. On aurait mieux fait de les mettre par hasard, comme ça, ça aurait pas été pire. Donc, c'est ce qui fait que ça sert à quoi. On l'a mis en informatique, on a corrigé, vous allez recevoir les bons reçus, mais excuse, on l'a dit tout à l'heure. Vu la taille des bulletins, il y avait quand même 12 cartons d'un certain poids à porter à la poste. Merci encore pour la lettre de nos amis. Je paye l'envoi en nombre à Bourges, rue Moyenne, et je pars. Le lendemain, même de la poste. Monsieur, vous n'aviez pas le droit de glisser la convocation du reçu fiscal pour pouvoir bénéficier du tarif réduit. Théoriquement, nous avons laissé un, et j'en avais laissé un, c'est pas le bon qu'ils ont fait, j'en reste un, vierge, de façon à ce qu'ils puissent bien vérifier. Un bourgeois, on n'a rien dit. Deux solutions. Soit payer plein tarif, 2000 euros, ou ouvrir les 260 enveloppes, enlever les convocations et les reçus et les envoyer en deux envois différents, coût 1200 euros seulement. Je demande où sont les plis. On me dit sûrement vers l'autoroute ou monter. Ça ferme à 18h. Oh, j'arrive à 17h45, et je vois que ça ferme à 17h45. Le lendemain, j'y retourne et on me dit, mais les plis, ils ne sont pas là, ils sont à Orléans. Et c'est eux qui se sont aperçus du problème. Après quelques échanges, ils accepteraient, si je leur fournis des enveloppes et des étiquettes adresses, de faire le travail de mettre sous plis. Mais vu le problème des étiquettes adresses, après avoir indiqué que les reçus étaient nominatifs, j'aurais fait toucher du doigt le travail qu'ils auraient, et fin de compte, avoir pleuré auprès de la responsable d'Orléans, Charles Durand, lui indiquant la proximité de l'Assemblée Générale, notre petite association a accepté exceptionnellement de fermer les yeux et d'envoyer les plis le soir même. Le lendemain matin, coup de téléphone de la toile de Bourges. Il paraît qu'il faut que j'envoie les plis à Orléans. Ils ne sont pas partis la nuit. Ah ben non, ils sont encore ici. Ça fait une heure qu'on m'a dit qu'il fallait que j'envoie. Sans commentaire. Tout ça, c'est du vécu. Hein. Enfin, vous êtes là, vous avez reçu les documents, c'est l'essentiel. Un miracle.
C'est fou.
Vous n'avez pas écrit un sketch après ?
Pardon ?
Est-ce qu'il y a écrit un sketch après ?
Je pourrais écrire un sketch. Vendredi 22 mars, c'est notre grand concert spirituel, donc vendredi prochain, avec Nicolas Stavy et Jacques Burtin. Faites-en la promotion autour de vous. Vous avez la sortie, des flyers et des affiches, tout ça sur les tables. Ne partez pas sans en avoir pris un certain nombre chacun, à distribuer dans vos quartiers largement. Pour ce concert, nous avons la chance d'avoir un partenaire avec des mécènes, à la fois généreux et sympathiques. Je les remercie très vivement. Cette année, bien sûr, ce sera les 700 ans de dédicaces centrales. Nous avons entendu beaucoup parler. Je vais juste vous rappeler éventuellement les temps principaux. Donc, mais je pense que à peu près tout le monde le connaît. Donc, le samedi 25 mai, pièce de théâtre à 11h et à 17h, les grandes heures de la cathédrale de Bourges. De 14h à 17h, théâtre de rue et chant. 18h30, célébration écuménique, préparée par l'association écuménique sans frontières, avec le groupe d'Augsbourg, l'Italie jumelée à Bourges. Il y aura les catholiques, les protestants, les orthodoxes. 21h30, procession au flambeau de l'église Saint-Pierre-le-Guillard à la cathédrale. 22h15, illumination de la cathédrale et spectacle musical avec Sion qui va jouer sur le camp Barbie. Des pièces parlées. Dimanche 26, 11h, pièce de théâtre. 15h, messe solennelle, présidée par le cardinal Jean-Marc Cavine et chantée par les chorales liturgiques du diocèse à la cathédrale. 17h30, discours officiel sur le parvis. 18h, goûter festif. Enfin, il y aura une deuxième partie qui sera le colloque. Donc, il y a un colloque qui sera le 5 et le 4 et 5 octobre à la Maison de la Culture, donc sur tout ce qu'on sait de nouveau sur la datation en particulier de la cathédrale. Parce qu'on dit toujours qu'elle a été construite à partir de 1195, il semblerait que ce soit beaucoup plus tôt que ça, donc les spécialistes de l'Europe entière vont venir pour en parler. Voilà donc tous ces problèmes-là. Alors, pour ces 1700 ans, nous aurons besoin de beaucoup de bénévoles. Inscrivez-vous auprès de la paroisse. On a besoin au moins de 100 personnes. Beaucoup de gens me demandent comment s'inscrire aussi pour le concert de Roberto Alagna, qui sera en juin. Allez sur Internet, Robert Alagna, concert cathédrale de Bourges. Et là, on peut prendre des billets. Notre prochain voyage culturel aura lieu en octobre. La date n'est pas encore fixée exactement. Ce sera en principe à Reims. Une information du père Cotenay qui me charge de vous indiquer que la bibliothèque diocésaine est ouverte tous les mercredis et jeudi après-midi rue Nicolas Leblanc. Je vous informe également qu'il y a deux expositions à voir en ce moment, toujours concernant les 700 ans, une à la maison diocésaine, une autre aux archives départementales. Vous avez à la sortie des livrets sur la dédicace de la cathédrale, très très bien fait. Qu'est-ce qu'une dédicace, comment c'est, etc. Un parcours donc très intéressant, avant 5 euros pour les frais justement du 700e anniversaire. À la sortie, Philippe Magne me prie également de vous informer de la conférence qui sera donnée par la Société des Amis de la Forêt de Troncé avec Frédéric Epau, qui va traiter des charpentes de nos cathédrales le 7 juin à Sérilly. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a d'autres points à éclaircir ou quelqu'un veut prendre la parole?
Oui.
Je vais porter le troupio en plus. Et le troupio serait heureux de faire une participation avec vous. Si vous voulez contacter le troupio,
pour faire quelque chose pour le 700e anniversaire? Pour le 700e anniversaire? Pas forcément.
Vous connaissez le troupio? C'est un groupe folklorique Berchon.
Faites-moi une proposition. Hein? Faites-moi une proposition. Voilà ce qu'on peut vous apporter.
On a déjà chanté des chants religieux au sein de l'autoglise.
D'accord.
Là, on a fait cette année le Saint-Germain.
D'accord.
Après, le responsable du groupe. La peu peur que la sono du troupio ne passe pas dans la cathédrale.
Mm-hmm. Mais, voilà. Au revoir. L'organisme troupio, qui est un groupe folklorique, propose éventuellement de faire des actions avec les amis de la cathédrale.
Il a été créé par Madame Thomas, la femme de François.
Ah, d'accord.
C'est un groupe de Saint-Michel-de-Molange.
D'accord. Ah, ils sont pas des gens de Saint-Michel-de-Molange.
Les
branches
de notre groupe. Ah, mais c'est pas ça.
S'il vous plaît, qui participe à la pièce de théâtre que vous
avez... Ce sont l'école de théâtre, le groupe de théâtre de l'école de Sainte-Marie-Saint-Dominique.
C'est l'école de Sainte-Marie-Saint-Dominique. Est-ce que les amis Jacques-Cœur participent?
Oui, tout à fait. Oui. Ils sont plus dedans, donc partie du spectacle.
Est-ce que vous avez un rapport avec les 700 ans et puis vous, l'association?
Alors, l'association des Amis de la Cathédrale est représentée par votre serviteur au conseil d'administration de l'association des 700 ans, qui est une association qui a été créée spécifiquement pour s'occuper des 700 ans. Oui.
Pour le concert à l'AMIA, il y a des billets aussi à l'Office du Tourisme.
Ah bon, très bien, l'Office du Tourisme aussi.
Pour dire simplement que ceux qui ne pourront pas se rendre à ces 700 ans de la cathédrale de Bourges, RCF en Berry rediffusera en direct la messe.
D'accord, très bien. Je n'ai pas salué, excusez, le père Kessar, recteur de la cathédrale, donc s'il m'a dit un petit mot sur ces 700 ans, non, c'est bon. Donc, oui.
Je peux dire un mot sur le futur vitrail?
Ah oui, un petit mot sur le futur vitrail. Ah ben oui, à ce moment-là, je peux... J'ai quand même laissé la parole à Stéphane sur le futur mitrail.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur Dame, merci. Donc, il avait été question pour ces 700 ans, il y a 2 ans déjà, de faire une action culturelle. Et le Centre des Monuments Nationaux avait proposé qu'il y ait, vous savez que dans l'histoire, un des événements importants a été malheureusement l'effondrement de la Tour Nord en 1507. Et certains, notamment des Monuments Nationaux, avaient dit mais il pourrait y avoir éventuellement une reconstitution de cette tour et l'effondrement de la tour. Un projet participatif avec des structures en bois et en carton, donc toute la ville de Bourges, petits et grands, pendant 15 jours, ont construit cette structure, sous évidemment les directives d'un spécialiste en la matière, qui fait des choses comme ça dans toute la France et même en Europe. Alors j'ai dit, bah, pourquoi pas, présentez-moi un devis. Et le devis était à peu près de 40 000 euros. Alors on s'est dit, pour une structure éphémère, qu'on va construire pendant 15 jours et qu'on va détruire en quelques minutes, on peut peut-être, alors Bernard derrière moi dit, mais nous avons depuis longtemps, je crois que c'était les amis de la cathédrale, enfin, dit, mais voilà, nous avons un vitrail en grisaille, tout neutre, vous savez, côté portail nord, au-dessus du confessionnal, vous avez un grand vitrail qui avait été muré en partie jusqu'au milieu du 19e siècle et qui a été ensuite ouvert et on avait fait simplement une grisaille. Donc c'est un vitrail neutre, et on s'est dit pourquoi pas profiter des 700 ans pour à la fois commémorer l'événement, mais aussi pour s'inscrire dans la longue histoire des créations qui ont embelli et enrichi l'édifice. Donc nous en avons parlé évidemment au propriétaire, c'est-à-dire les services de l'État, la DRAC, et nous avons eu, pendant la période Covid, nous avons eu des liens avec en visio et puis ensuite en présentiel avec les services de l'État. Et donc, depuis fin février, le lancement du concours est parti. Donc, ce qui fait que des artistes vont pouvoir candidater pour... alors, ce sera, selon le souhait de notre évêque, un vitrail figuratif, donc représentatif, c'est pas de l'art abstrait comme ça, même si évidemment il ne faudra pas s'attendre à un vitrail, une reproduction d'un vitrail du XIIIe siècle ou même du XVIe siècle. Ça sera avec une touche forcément contemporaine, mais figuratif. Alors nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous pourrions mettre en figuration dans ce vitrail? Donc il y aura 14 personnages, 7 hommes et 7 femmes, à parité. Des grandes figures de l'espérance en Berry depuis le XVIIIe siècle jusqu'à une époque récente. C'est-à-dire ceux qui sont en voie de canonisation ou en voie de béatification ou ceux qui ont marqué particulièrement au plan de la charité, de la solidarité, Bourges et Berry. Ça commence par nos martyrs de la Révolution française. Nous avons un séminariste, Sébastien Desbriel, qui est né à Bourges, qui a été baptisé, il y a d'ailleurs une plaque dans l'église Notre-Dame, et qui a été victime de la Révolution en 1791. On lui a tranché la tête, comme un certain nombre. Ensuite, nous avons les 3 martyrs des Pontons de Rochefort, qui ont été béatifiés par le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, en 1995, dont nous avons la plaque en marbre, qui est dans une des chapelles de la cathédrale. Mais nous n'avons pas leur représentation. Ensuite, nous avons des fondateurs d'ordre. Nous avons Sainte-Jeanne-Elisabeth Bichet des Âges, qui est née et baptisée au Blanc, et c'est bien chez nous, dans l'Indre. Elle a fondé les Filles de la Croix au début du XIXe siècle. Ensuite, nous avons Estelle Faguette, qui a vu la Vierge à Pellevoisin, qui est enterrée à Pellevoisin. Nous avons des fondateurs d'ordre aussi comme Jules Chevalier, fondateur, et c'était hier son anniversaire, les 200 ans de sa naissance, 1824, et donc fondateur des missionnaires du Sacré-Cœur d'Issoudun, et celle qui a fondé à ses côtés la branche féminine, les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, Marie-Louise Hartzer. Tous les deux sont enterrés dans la crypte de la basilique d'Issoudun. Donc c'est des figures, vous voyez, hommes-femmes. Nous avons aussi, bien sûr, une carmélite, Sainte Élisabeth de la Trinité, qui est née à Parges en Septaine, à côté d'Avord, et donc une grande figure aussi, même si elle a été ensuite à Dijon et carmélite à Dijon, c'est une fille de chez nous, donc c'est aussi l'ordre du Carmel qui est représenté à travers elle. Nous aurons aussi une grande figure chrétienne, une grande femme, l'impératrice Zita, qui en 1933 a été marraine d'une des cloches de la cathédrale, qui s'appelle d'ailleurs Henri Zita, Henri de Bourbon-Parme et Zita de Habsbourg. Elle était oblate de Sainte-Cécile de Solesmes et elle venait très souvent voir son frère François-Xavier de Bourbon-Parme au château de Lignières, puisque Madeleine, son épouse, Madeleine de Bourbon-Busset, était donc au château de Lignières. Donc elle s'arrêtait à Bourges, elle venait envoyer cette petite bonne femme toujours vêtue de noir qui venait prier à la cathédrale. Et donc elle est une grande figure, vous savez que son mari Charles de Habsbourg a été déjà béatifié et elle est en cours de béatification. Donc c'est aussi une belle figure chrétienne et ça montre les attaches que nous avons avec la famille. Et puis nous avons à une époque plus récente Jean Teinturier, séminariste, contemporain du père Cotenay. Jean était né en 1922, le père Cotenay 1924. Et ils étaient ensemble au séminaire. Le père Cotenay commençait sa théologie et Jean était déjà en théologie et il est parti, vous savez, au STO avec cette volonté d'apporter l'évangile dans les camps de prisonniers. Et il a été repéré comme étant particulièrement zélé et comme Marcel Callot, qui lui a déjà été béatifié, il y en a 49 autres et je pense que la béatification pourra avoir lieu dans quelques mois, au moins d'ici un an, je pense. Et puis nous aurons aussi quelqu'un qui a marqué l'histoire de Bourges et qui venait très souvent au pied de la cathédrale, à la chapelle des Pères Franciscains, qui a été ensuite chapelle des Carmes et qui est maintenant la Maison de la Parole, rue Porte Jaune, le franciscain de Bourges, Alfred Stanke. Donc il sera aussi sur, il figurera sur le vitrail. Voilà. Vous voyez, donc cet homme, cette femme, c'est l'histoire des chrétiens voilà, plus récents. Vous voyez un petit peu, voilà. Alors donc, je pense que nous aurons, au début de l'été, les 6 ou 7 artistes que nous allons retenir. Il y aura peut-être plus qui vont candidater, mais on va ensuite en sélectionner que 5 ou 6. Ensuite, ils vont nous présenter leur... et il y aura un jury, évidemment composé de l'archevêque, et puis des services de l'État, moi-même, je crois, en feront partie, l'art sacré, enfin voilà, on sera une douzaine de membres dans le jury pour déterminer qui nous retenera. Alors ça n'est pas l'État du tout qui finance, c'est nous qui finançons, c'est-à-dire vous, les mécènes, et c'est pour ça qu'il y a un appel à mécénat, si vous souhaitez donner, vous aussi, ne serait-ce que 30 euros, 50 euros, il y en a qui donneront plus, mais vous pouvez aussi contribuer, c'est un peu chacun notre petite pierre que nous apportons à cette, voilà, contribue, voilà. Donc à la fois, sur ce petit flyer, vous avez le programme qu'a rappelé Bernard tout à l'heure, mais vous avez aussi la possibilité de donner pour la création de ce vitrail. Alors n'hésitez pas à le faire.
Est-ce que vous n'avez pas une vision au vitrail si on donne...
Pas, alors, vous avez... Non, mais c'est marqué, alors attendez. En soutenant ce projet par un don... Et donc la fondation qui est habilitée à avoir un don pour contre un reçu fiscal, vous marquerez votre attachement à notre histoire, vous participerez à cet événement exceptionnel autour de ce patrimoine et vous vous inscrirez dans une démarche de création artistique. Donc voilà. Alors vous avez une plaquette plus importante pour ceux qui veulent contribuer uniquement au vitrail. Et puis les autres, et vous pouvez spécifier... Je fais un don uniquement pour le vitrail, c'est possible. Sinon, ben, ça partira aussi à tout ce qui est l'organisation, la structure. Vous voyez, ne serait-ce que faire des flyers, faire des...
Ça, faire la plaquette, tout ça, ça coûte forcément de l'argent. Plus, nous avons la ville de Bourges, que je remercie en la présence de madame la maire adjointe, tout ce qui est structure, on vous a parlé d'une pièce de théâtre, donc ça veut dire une scène à installer, et ça, la ville de Bourges contribue grandement et je les en remercie pour ça. Donc vous voyez, c'est beaucoup de... On travaille avec les services de la préfecture pour tout ce qui est sécurité, donc à la fois police municipale, police nationale. C'est un gros événement, hein. Comme il y aura des personnalités, ben, faut que ça se passe bien, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur.
Alors, vous, on en a apporté quelques-uns ici, hein, à l'entrée. Et puis, il y en a...
Oui. Bon, Bernard est dans le jury.
Je ne crois pas, parce que l'État... Vous voyez, et encore, nous, on a fait un peu de forcing, parce qu'il y a 3 ans à peu près, à la cathédrale de Tours, à Saint-Gatien, ils ont créé un vitrail. Et il n'y avait que l'archevêque qui était membre, Mgr Robertin à l'époque. Et sinon, c'était que les services de l'État qui étaient représentés. Nous, on a fait du forcing pour que l'archevêque soit présent, bien sûr, le recteur de la cathédrale, la sacrée.
Parce que Bernard a bon goût.
C'est nous qui payons. Vous voyez, c'est un projet auquel tout le monde peut participer. C'est un bon projet. On marquera l'histoire. Voilà, je vous donne la parole.
Merci.
D'autres interventions?
Oui. Juste un mot sur les déboires qu'on a eu avec la porte de notre local.
Ah, le local. Oui, on a eu un petit problème. Il y a... On a eu des vols au presbytère. Bon, donc il y a un portable qui a disparu, après il y a une souris qui a disparu, ensuite il y a une clé qui a disparu. Donc on a fait changer les clés. On ne met plus les clés dans les dossiers. Chacun avait, avec les amis du Grand Orgue, on avait une salle commune avec les amis du Grand Orgue. Et donc, on a changé de serrure. C'est comme ça. C'est la vie moderne. D'autres questions? Eh bien, on va clore donc cette assemblée générale statutaire. Et je vais passer la parole à Patrick Dorian, je vous remercie. Alors, simplement, juste un mot pour saluer Roger Douillard, qui est arrivé avec un peu de retard en ce moment. Donc, si vous voulez féliciter l'auteur du bulletin numéro 11 spécial, c'est lui le responsable.
Pour l'éclairage de la cathédrale.
Oui, je vais en parler. Alors, l'éclairage a été supprimé par ordre de la préfecture pour raison de sécurité. Avant rien d'autre. Alors, le maire a dit à un conseil municipal qu'il allait remettre l'éclairage au mois de mai. En fait, il va remettre l'éclairage des nuits-lumières. Ce n'est pas l'éclairage de la cathédrale. Donc, il y a quelqu'un, pour ne pas le nommer, Corné Bougeon, député du Cher, a voulu qu'on lance une pétition pour le rééclairage. Bon, il m'a contacté. J'ai demandé à voir, avant toute diffusion de la formule qu'il utilisait pour faire cette pétition, j'ai lu le texte et personne ne peut aller contre ce texte. On constate simplement que la cathédrale est noire, c'est pas normal, et on aimerait qu'elle soit rééliminée le plus rapidement possible, qu'on est conscient des problèmes de sécurité, mais qu'il faut faire quelque chose pour, surtout en 2028, capitale européenne de la culture, il faut quand même que la cathédrale soit éliminée. Donc on a lancé cette pétition, j'ai fait signer pas mal de gens, il y a une pétition qui peut être lancée aussi au niveau Internet. Donc, pour l'instant, j'ai pas de retour. Quelques retours que j'ai, c'est les gens qui m'ont dit nous, ce qui nous gêne, c'est de signer quand il y a un député qui n'est pas forcément de notre bord, qui est en tête de cette pétition. On avait souhaité faire mettre un article dans le journal. Le Béret républicain a refusé de mettre la photo qu'on avait fait avec notre pétition. Je pense qu'ils ont refusé parce qu'ils ne veulent pas. Je suis sûr que c'était moi tout seul qui avait demandé, qui avait lancé la pétition et qui demandait au Béril de faire un article là-dessus, il aurait fait un article. Sans problème. Donc pour l'instant, on en est là. Alors moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de contacter directement la DRAC, la responsable de ça, en tant qu'association des amis de la cathédrale, c'est tout. Il a demandé qu'il tienne au courant et informé régulièrement de où en est le dossier pour relancer cet éclairage. Et donc, on ne laisse pas tomber, mais pour l'instant, la pétition elle-même, on peut toujours se dire, au contraire, hein, plus on aura de signatures, mais ça va pas. Mais c'est pas. Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen pour faire bouger les choses.
Oui. Fondation du patrimoine, on avait été sollicité aussi, et comme toi, j'ai.
Tu avais dit oui au début, mais après tu as dit non.
Voilà, non.
Oui. Oui.
Comme toi, le texte me paraissait très posé, voilà. Sans problème. Mais j'ai pris contact aussi avec la DRAC,
oui.
Avec la VF.
Oui.
Ils m'ont dit il n'y a plus à attendre de problème de cette pétition, parce que sachez qu'on est au travail, mais qu'il y a des gens qui sont derrière la pétition, qui ont des intentions pas très claires.
D'accord. Donc, voilà. D'accord. Non, mais je ne sais pas si je suis un peu cet avis-là. C'est pour ça que pour l'instant, on statue court. Statue court.
Il faut arrêter.
Oui.
En ce qui concerne l'arrêt de l'éclairage de la cathédrale, l'éclairage extérieur, oui, éclairage des nuits lumière, il y a donc la version officielle que tu viens de nous donner, qui est tout à fait convenable, et puis il y a des raisons quand même tout à fait officieuses, un peu plus délicates, des problèmes contractuels, des problèmes de contrat, des problèmes, sachant que la soi-disant que c'est dangereux, c'est pas dangereux, hein. Un circuit électrique, ça se corrige très facilement. Donc si vous voulez en savoir plus, je ne peux pas vous le dire officiellement, vous viendrez me voir.
D'accord. Bon, écoutez, je laisse la parole à Patrick Orléans, et puis j'arrive.
Oui,
merci. Oui, je vais prendre la parole pour ça, parce que c'est très douteux quand même de dire des choses comme ça. C'est suite à un contrôle de la PAV, donc une commission qui nous dit à la ville, mais à l'État aussi, qu'il y a un problème de sécurité. Donc la ville et l'État, vous connaissez les problèmes de ce qui s'est passé à Notre-Dame, bien entendu qu'on n'a pas attendu et on a fait comme on a fait dans d'autres bâtiments. Cette commission de sécurité nous a dit d'éteindre, d'enlever. Donc nous avons tout éteint. Mais c'est juste une commission de sécurité. Il faut savoir que c'était une partie des nuits et lumières, oui, effectivement. Et je le rappelle, la compétence, ce n'est pas une compétence ville, mais c'est une compétence de l'État, l'éclairage de la cathédrale. Donc ce qui va être fait aujourd'hui et demain. Donc une partie, le maire l'a dit qu'il fallait que ça soit rééclairé, ok, mais ça sera une partie, c'est un éclairage, parce que de toute façon, pour un éclairage qualitatif, un éclairage qui soit artistique, etc., c'est pas 3 mois hein, qu'il faut. C'est lancer des concours, comme on a vu tout à l'heure. Enfin, il y a tout un programme, des commissions qui sont déjà en route, et qui travailleront pour un éclairage, un vrai éclairage, un éclairage qualitatif. Mais la mairie, la compétence de la mairie, je le répète, ça sera de dire, si on éclaire, on éclairera à l'extérieur de la cathédrale pour que ça donne sur la cathédrale. Là, la compétence s'arrête à ce niveau-là. Donc, je le répète, c'est vraiment une commission de sécurité, et c'est pas de dire ni la ville, ni l'État, c'est pas une petite idée... On éteint la cathédrale parce que ça fait plaisir, parce que j'ai tout entendu de dire que ça fait des économies, ce n'est pas vrai. C'est vraiment pour de la sécurité. Il y a encore pas très longtemps, il y a encore eu des démarrages d'incendie. Donc on laisse pas faire ces choses-là. Et évidemment que ça va demander des années pour, enfin, en tout cas des mois, pour que qu'on retrouve un éclairage qualitatif. C'est pas en quelques semaines que ça va se faire, et ça je. Et la mairie, l'État aussi, après, je laisse la compétence de l'État, je ne s'implique pas dedans, juste pour dire qu'aujourd'hui, nous avons éteint une partie de nos lumières, et l'État a éteint parce que c'était très dangereux. Donc c'est une commission de sécurité qui nous dit que c'est en 2021, c'est la PAV, hein, donc on a toutes les commissions qui les déplorent que ça soit... Que ça soit pas dans les... Voilà. Donc ça, je tiens à le rappeler parce qu'on écoute beaucoup de choses, mais il faut être réaliste, il faut être factuel. Et ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. Après, les sous-entendus de ça, enfin, on ne peut pas l'accepter, ces sous-entendus. C'est aujourd'hui, on est éteint, pas par souci d'économie, parce que c'était dangereux. Voilà, je tiens à le redire. Merci.
Il y a un deuxième.